Bain.
Des tortues, des hôtels, de la justice et de la chanson dans cette édition. On parlera aussi bien sûr politique à 5 jours du second tour. Ce journal, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
On commence par cette question. Quel avenir pour les Sofitel de Bora ?
Eh bien, c'était la question qui était posée depuis plusieurs semaines au tribunal de commerce qui a donné une réponse hier. Pour rappel, les deux Sofitel appartiennent jusqu'à aujourd'hui au Saman Fred Gray. Ils ont été placés en redressement en octobre dernier et avaient attiré des convoitises de plusieurs investisseurs. Au final, les offres de reprise de trois groupes ont été étudiées. Celle des Américains de Redcor, celle du groupe City représenté par Teva Raffin et celle plus récente du groupe Royal, dirigé par Christina Teotihuahua, la fille de Dominique Auroi. Et c'est cette dernière offre qui a finalement convaincu les juges. Il faut dire que le Sofitel Marara, un des deux hôtels vendus, jouxte le Royal Bora Bora. On écoute Maître Vergier, l'avocat du groupe Royal.
Je pense parce qu'on a été les plus raisonnables. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti sur on repart sur de la défisque, sur plusieurs milliards de travaux pour réouvrir un 5 étoiles, etc. Nous, on est sur une offre où on ne fait qu'étendre notre 3 étoiles et ça sera un 3 étoiles. Donc les investisseurs sont pas les mêmes, la quantité de personnel n'est pas le même et ça permet d'ouvrir beaucoup plus vite.
Seule une vingtaine de salariés devraient être repris pour une intégration du Marara dans le Royal Bora dès le mois de novembre. Pas de précision en revanche sur le devenir du Sofitel Private Island, un 5 étoiles qui se trouve sur un motu juste en face du premier hôtel, toujours près de la pointe Matira. Cette décision du tribunal de commerce ne manquera pas tout de même d'interroger quand on sait que le groupe Royal avait reçu début 2022 une avance de trésorerie de l'État de 85 millions de francs pour sauver ses propres hôtels, celui de Bora, mais aussi celui de Wayne qui reste aujourd'hui fermé.
À l'ancien DG de Nati était aussi au tribunal hier.
Oui, pour exiger en référé plus de 10 millions de francs de son ancien employeur. Thomas Lefebvre-Ségard avait été débarqué l'année dernière après seulement 16 mois à la tête de la filiale télécom de l'OPT. Il estime avoir le droit à sa prime de résultat malgré les pertes colossales de Nati sous sa direction. Des pertes qui seraient d'après lui dues à des décisions antérieures et extérieures à sa fonction. L'ancien directeur général qui avait quitté Vodafone pour Onati demande aussi le paiement d'une indemnité de non-concurrence. La décision de référé sera rendue le 15 mai prochain et un procès au fond pourrait s'ouvrir devant le tribunal de commerce.
Du côté des territoriales, ça s'active en coulisses.
Et oui, hier, l'heure était à la mise sous pli au gymnase d'Aloué. Près de 210 000 enveloppes, une pour chaque électeur inscrit, doivent être envoyées avant dimanche, avec à l'intérieur les professions de foi et les bulletins de vote des trois partis en lice pour le second tour. Pour préparer tout ça, 172 vacataires, des chercheurs d'emploi sélectionnés par le CEFI, sont à pied d'œuvre. Un travail très méthodique, payé à l'enveloppe plutôt qu'à l'heure. Alors forcément, on essaye d'optimiser sa technique. On écoute Jimmy, qui a découvert ce petit boulot lors des présidentielles.
Bon, et rapidité, mais plutôt l'efficacité. Hein. Et moi, je dis plutôt dans ce travail, il faut plus se coordonner et s'entraider. Quand quelqu'un est plus faible, bon, on essaie de l'aider aussi au maximum. Hein. Une partie prend les professions de foi et la deuxième partie met sous enveloppe. Et nous avons un référent qui récupère les cartons. Voilà. Surtout, ne pas se tromper, ne pas oublier. Il faut que ça soit tout au complet dans les enveloppes.
A noter que pour ce second tour, le Tavigny a fait le choix d'imprimer sa profession de foi seulement pour Tahiti et Moréa. Avis donc aux électeurs des autres îles, vous retrouverez dans vos enveloppes seulement celles des rouges du Tapura et des verts de Aereia Polynetia.
Et justement, les verts sont sur le terrain.
Il faut dire qu'avec 20 à 25 000 voix de retard sur leurs concurrents au premier tour, Aereia Polynetia ne part pas favori ce 30 avril. Il s'agit donc de convaincre les abstentionnistes en priorité, ça représente 40% des électeurs tout de même, et puis les déçus des rouges et oranges aussi, car si le Tapura et le Amuitaira se sont érigés en front anti-indépendance. Nicole Sanquer rappelle que son parti est aussi profondément autonomiste, je cite, mais avec une autre vision de cette autonomie.
En fait, quand le Tapura essaie d'occulter totalement l'image que Aereia Polynetia a de l'autonomie et se voit comme seul parti autonomiste dans ces élections. Nous, à Aereia Polynetia, nous voulons justement montrer quelles sont les compétences que l'on peut encore développer grâce à ce statut d'autonomie et surtout nous proposer un projet de société où on met fin à toutes ces inégalités, à tout ce système un peu politisé, à ces injustices que vivent les Polynésiens.
Voilà Nicole Sanquer qui, comme Nouya Olloré, qu'elle a remplacé en tant que candidat de Aereia Polynetia à la présidence du pays, a tourné une bonne partie de ses attaques contre le bilan et le discours d'Edouard Fritsch et du Tapura ces dernières semaines. Et pourtant, comme l'ont confirmé les résultats du premier tour, le grand favori de l'élection, c'est bien le Tavigny. De ce côté-là, les Verts dénoncent surtout un manque de clarté.
vous avez surtout des divergences sur l'indépendance, avec un leader qui maintient que l'indépendance, c'est pour demain, et puis des indépendantistes beaucoup plus modérés. Il y a aussi des incohérences sur le sujet de la taxe sociale, par exemple. Donc, nous avons bien étudié le programme du Parlement, et c'est surtout fait de généralité. Mais nous n'avons pas encore bien compris quel est le sens réel de ce programme.
Nicole Sanquer qui appelle donc tous les électeurs à ne pas voter contre un parti, mais pour un projet de société, celui des Verts, bien entendu.
Et un tout autre discours au Hilton de Tahiti hier soir.
Oui, celui du Tapura qui avait organisé une rencontre avec le Club des Entrepreneurs. Sur scène, Edouard Fritsch, entouré de plusieurs des ministres du gouvernement sortant, tous portaient le même message. Le 30 avril, le Tahiti séparatiste peut l'emporter et ce serait une catastrophe pour l'activité. Il faut donc faire le choix de la raison, insiste-t-il, et voter utile.
Le parti qui aura le plus grand nombre de voix aura la majorité seule. C'est ça que ça veut dire, la prime majoritaire, avec les 19 sièges octroyés d'emblée. Il n'y aura pas de majorité Tapura Huilatira avec les Verts. C'est impossible numériquement parlant. Donc voter les Verts, c'est donner la possibilité pour le Tamini Huilatira d'accéder au pouvoir. Et là, nous avons vécu par le passé la prise de pouvoir par Oscar Temaru. Et encore une fois, Oscar Temaru est toujours là.
Jean-Christophe Bouissou, animateur de cette soirée lors de laquelle les Rouges ont promis de faciliter la vie aux entreprises. Pour appuyer ce discours, le Tapura pouvait compter sur des soutiens sur scène, celui du Calédonien Harold Martin, mais aussi de Gaston Floss. Le vieux lion n'a pas manqué de sarcasme et a notamment visé Moetai Brotherson, qu'il dit avoir embauché dans son administration voilà 30 ans et fait élire avec les voix du Tapura à son poste de député en 2017. Son bilan, rien, zéro, assure le leader orange. En bon patron, vous diriez « j'ai pas besoin de toi, tu dégages, faites-le dimanche prochain », fin de citation.
Des tortues qui déménagent.
Celle de Temana au Temoana, l'association qui gère le centre de soins des tortues marines. Un centre aujourd'hui installé à l'Interconti de Moréa, vous le savez, sauf que l'hôtel est fermé depuis 3 ans et que cela pèse sur l'activité du collectif. L'association s'est donc accordée avec ses partenaires pour rapatrier les tortues à Tahiti avec leurs soigneurs. Écoutez.
L'association RERA se porte à l'intercontinental de Tahiti à Faa au courant du mois de juin. Les activités de l'association reprendront progressivement en juillet avec l'accueil du public et des scolaires. Nous serons situés sur la zone du site de plongée sur la cocoterie et les tortues évolueront au niveau du lagunarium.
Et puis on finit en chanson.
Quand tu chantes, chante ta lumière.
Croix en ta lumière, c'est le nom de cet hymne du concours Nescafé Star qui en est à sa 8e édition. Après avoir écouté 140 candidats, un record, après avoir retenu 27 chanteuses et chanteurs polynésiens pour le casting final, le jury de Nescafé Star a ses 12 finalistes 2023 et tous sont réunis sur cette chanson signée Réva Juventin. Pour l'autrice-compositrice, ça a été un plaisir d'aller à la rencontre de ces nouveaux talents.
C'est toujours intéressant de partager avec eux l'expérience que moi j'ai vécue et puis à chaque fois qui reviennent vers moi pour des conseils. Voilà, c'est un moment quand même assez important dans la vie d'un artiste, apprendre de l'expérience des autres. Et franchement, c'est un très bon cru cette année.
Croix en ta lumière, une chanson donc composée par Réva Juventin et arrangée par Bruno Demougeot, qui était lui aussi dans nos studios hier matin. Alors pour les finalistes, Henere, Lady, Maïma, Maké Anoui, Bernard Garance, Manaï, j'en oublie probablement certains, l'heure est désormais à la grande finale de cette 8e édition, qui sera donc le 3 juin, le clip de Croix en ta lumière, lui, est à retrouver sur notre site radio1.pf. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas votre rendez-vous de ce mardi à 11h, le débat radiophonique du deuxième tour. Edouard Fritsch, Moetai Brotherson et Nui Olore seront sur notre plateau jusqu'à midi en direct sur Radio 1-FM et sur notre page Facebook.
Merci beaucoup, Charles.